Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, c'est cette parole de l'apôtre Paul qui retient mon attention et je vous propose de méditer. On sent qu'elle est d'une grande portée, elle n'est pas évidente à saisir. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre, surtout les plus à plaindre de tous les hommes. Je pense que vous comprenez, vous, de cette parole, et plus à plaindre de tous les hommes, de mettre notre foi dans le Christ Jésus sans comprendre que notre foi en lui, c'est la foi dans la résurrection ultimement et donc la vie éternelle. Si notre espérance chrétienne se bornait à recevoir du Seigneur ce qu'il nous octroie déjà, son aide, il nous prête sans cesse assistance, nous croyons en sa providence. Mais saint Paul dit, si vous ne croyez que cela, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que vous êtes même encore plus malheureux de ceux qui ne croient en rien, si vous croyez en moitié. Avoir une demi-foi, c'est pire que ne pas avoir la foi du tout. Il y a une analogie qui me venait, une comparaison, que me suggère évidemment le cadre dans lequel nous sommes. C'est que si Patrick nous proposait en randonnée une excursion assez extraordinaire qu'il a repérée en nous disant « Quand vous serez là-haut, à 3005, vous aurez une vue absolument imprenable, je vous assure, croyez-moi, j'y suis déjà allé, j'ai reconnu cette voie, faites-moi confiance, vous m'en direz des nouvelles. » Nous le croyons, nous lui faisons confiance parce qu'il a fait l'aller-retour, il l'a vu et il est redescendu. Et donc nous allons être motivés dans l'ascension par ce témoignage parce qu'il est promis, mais nous avons quelqu'un qui est redescendu de là-haut. La difficulté avec le ciel, la vie éternelle, c'est qu'à part le ressuscité pour la première génération et qu'il soit béni d'être venu nous voir et de se révéler à tant de frères qui ont pu en témoigner après, néanmoins, depuis le jour de l'ascension, c'est fini ce régime-là. Nous n'avons plus de témoins qui descendent du ciel pour nous dire « Waouh, la vue là-haut, extraordinaire, je vous assure, soyez motivés, préparez-vous. » Nous sommes, avec ces paroles de la révélation divine, extrêmement précieuses, qui nous disent « Oui, la vie éternelle se prépare dès maintenant. » Et là, il faut être motivé pour faire l'ascension, pour gravir la montagne. Et on comprend que, enfin, en tout cas, je pense qu'on peut avoir beaucoup de compassion d'abord, de compréhension, pour ceux que nous pouvons croiser dans notre vie et qui disent « Mais moi, la vie chrétienne, être disciple de Jésus, mais ça m'ennuie profondément. En fait, je ne t'en vis pas. » En fait, moi, je comprends les gens qui ne nous comprennent pas. S'il n'y a pas la perspective du ciel, de fait, la vie chrétienne impose un certain nombre de renoncements, pour ne pas dire de sacrifices. La parole de Dieu est exigeante. Suivre les commandements de Dieu. Bien sûr, on pourrait essayer de vanter que la vie chrétienne nous remplit de bonheur, mais en fait, le bonheur dont parle Jésus, il est au ciel. Ici, nous avons des joies à accueillir, mais le bonheur, non. Jésus ne nous promet pas le bonheur sur terre, il nous promet au ciel, il nous parle de la joie, ce qui est bien différent, comme des petits éclats de ce bonheur éternel. Et de vraies joies que nul ne pourra nous enlever ici-bas. Mais ce n'est pas encore le bonheur total, la béatitude, quand nous serons, si nous sommes sauvés, fixés en Dieu, avec tous les anges et tous les saints. Et donc, il faut comprendre la difficulté, pour ceux qui n'ont pas la foi, qui ne l'ont pas encore, de comprendre notre motivation. Et pour nous-mêmes, ça serait bien triste, je fais écho à la parole de Paul que je viens de vous lire, de croire qu'on est chrétien pour aller bien dans la vie, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, ultimement pour nous préparer au ciel. Et elle est là, la motivation ultime. Je me souviens, dans un camp que nous avons vécu, le garçon devait avoir à peu près 11 ans, et on était plusieurs à être témoins de cette scène. Il dit à Sœur Bénédicte, vous vous souvenez, qui vient l'été, là, ceux qui font les camps d'été, vous la connaissez, et il lui dit comme ça, droit dans les yeux, c'était presque insolent, mais non, c'était avec beaucoup d'ingénuité de sa part, il lui dit, ma sœur, ça ne vous fait pas drôle d'avoir toute votre vie fondée sur un... Vous avez fait un pari, en fait, vous ne savez pas. Toute votre vie, votre sacrifice, vos vœux, tout ça, c'est un pari. Sœur Bénédicte, un pari. Et c'est vrai, elle trouvait ça très beau. En même temps, ça a été l'occasion pour elle de témoigner. Elle dit, en fait, Moi, c'est une promesse de la parole de Dieu, je crois vraiment à la vie éternelle, et que ce sacrifice, car c'en est un, que de se consacrer, comme le font les religieux dans les conseils évangéliques, dans le célibat pour le royaume, c'est fondé sur un acte de foi, s'il n'y avait pas la perspective du ciel. Alors voyez, ce que saint Paul dit, c'est vrai. On serait bien malheureux comme chrétien si on ne croyait pas au ciel. On aurait presque tous les inconvénients de la vie chrétienne sans les avantages. Mais, éclairé par les paroles de Jésus, dans ses bénédictions qu'il énonce, et dans ce qui ressemble à des malédictions et qui n'en sont pas, je vais y revenir, Jésus nous dit peut-être quelque chose d'encore plus fort que saint Paul, ou plutôt qui vient éclairer la parole de saint Paul. Vous êtes les plus malheureux de tous les hommes si vous ne savez pas ce à quoi la vie que vous vivez ici-bas vous prépare. Là, on pourrait le dire aussi. Comme vous ne savez pas qu'il y a quelque chose à voir en haut de la montagne, vous restez dans la vallée et vous dites, en fait, il n'y a que cette vie, il n'y a rien après, et donc il faut qu'on s'éclate à max en étant en bas, on va faire des trucs pour s'occuper, parce qu'après, il n'y a rien. Quand on pense qu'il n'y a rien après la mort, ben, cette vie, on essaie de la consommer comme on peut, on essaie d'épuiser son forfait jusqu'au bout, avant que tout soit coupé, vous voyez. Il y a une espèce de façon de vouloir jouir de l'existence, en fait, qui est bien triste, parce qu'il n'y a rien après. Quand on est chrétien, normalement, on est dans cette dynamique de l'ascension. On gravit la montagne. C'est ça, la sainteté. Et on n'est pas simplement à se dire « Demain, il fera très très beau, ce sera magnifique ce qu'on verra là-haut. En attendant l'ascension, on n'a rien à voir et c'est pas beau. » C'est pas vrai. En réalité, lorsque nous faisons cette expérience de l'excursion, il y a des petites pauses qui sont possibles, des petits points de vue qui s'ouvrent comme des fenêtres où l'on peut apercevoir le magnifique panorama. Dans une excursion, dans une ascension en montagne, il n'y a pas que le panorama final, il y a ces petits moments où le ciel s'entr'ouvre et nous disons, déjà, à 1008, si c'est aussi beau que cela, que sera-ce là-haut ? Ça nous prépare. Et dans notre vie chrétienne aussi, les joies que nous cueillons, alors que c'est pénible parfois, qu'il faut donner de son temps, de son énergie, il faut avancer dans la foi, et parfois on ne voit pas grand-chose du ciel, nous cueillons et nous accueillons ces petits moments de grâce qui nous préparent à la gloire qui vient et que nous espérons. Vous voyez, je pense qu'un beau camp chrétien, comme vous le vivez, ces moments de vie fraternelle, de foi, de louange, c'est des petites fenêtres sur le ciel. La liturgie, normalement, nous prépare, avec les moyens du bord, bien maladroitement, on est loin, à mon avis, de la beauté de la liturgie célébrée avec tous les anges, mais on a besoin de ces petites pauses, ces petites fenêtres qui nous font entre-apercevoir le grand ciel, la gloire de Dieu. Alors c'est ainsi que nous devons comprendre, chers amis, pour finir, dans la version de Saint-Luc que nous venons d'entendre, « Malheureux êtes-vous qui sortent de la bouche de Jésus. » Il ne nous condamne pas, Jésus, il nous plaint, il plaint les hommes qui ne savent pas, qui disent « Moi j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de ça. » Je n'ai pas besoin de faire du jour du Seigneur, vraiment un jour consacré pour lui, d'avoir une vie qui est dominée par cette parole « Dieu premier servi ». Je n'ai pas besoin de ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis riche, j'ai les moyens, j'ai une famille, tout va bien. Je n'ai pas besoin de... La religion, c'est pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des besoins. Mais moi, je n'ai pas de besoin, je suis riche, je suis repu. Malheureux vous qui êtes repu, dit Jésus. Parce qu'en étant repu, c'est-à-dire en ayant tout ce qu'il faut, vous avez l'illusion que votre vie, elle est juste ici, elle n'est pas ailleurs. Et vous ne savez pas. Et je vous plains, dit Jésus. J'ai de la compassion pour vous. Je me lamente publiquement. Et je vous dis, vous ne savez pas que votre vie, en réalité, est un stage, une période probatoire, un apprentissage, une répétition générale, une préparation. Vous êtes dans l'illusion qu'il y a tout dans cette vie, c'est faux. Et comme vous ne le savez pas, malheureux êtes-vous, parce que vous ne vous préparez pas à la vie éternelle. Et vous ne prenez pas toutes ces occasions que vous offre la vie d'aller plus haut, de gravir la montagne, d'entreprendre dès maintenant la magnifique ascension qui s'appelle la sainteté. Si vous saviez, nous dit Jésus. Vous voyez le livre de l'Apocalypse ? Vous savez comment il appelle la vie ? Quand on voit ceux qui arrivent au ciel, ils viennent d'où, eux ? Ils viennent de la grande épreuve. Ah, ils viennent de la grande épreuve. Qu'est-ce que c'est la grande épreuve ? C'est la vie. Nous, on est dans la grande épreuve aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et au ciel, on se dira, ah, voilà les survivants. Ils arrivent, regardez, ils arrivent. Ils s'en sortent. Ils ont gravi les 3005. Ils ont l'air fatigués, hein. Ils sont crassouillés. Peut-être qu'ils vont devoir se purifier. Un purgatoire, c'est sur le côté, là, pour revenir. Ils en reviennent, ils sont là. Et ils entrent dans la vie. En fait, leur vie commence. La vraie vie commence. Un grand chartreux, Don Guiran, écrivait un jour ces paroles magnifiques, que je répète sans cesse, moi elles me marquent beaucoup, vous voyez, parfois je me mets un petit post-it sur mon bureau et je remets cette parole de Don Guiran. Donc c'est les moines qui sont dans la montagne, qui prient jour et nuit, qui sont des ermites. Ici-bas, nous ne vivons pas vraiment, nous apprenons à vivre. Ici-bas, nous ne vivons pas vraiment, nous apprenons à vivre. Alors recevons cette parole de Dieu comme un encouragement à gravir la montagne de la vie chrétienne, de la sainteté. Nous aurons peut-être des petites fenêtres qui nous mettront du baume au cœur et nous croyons qu'au sommet de la montagne, Dieu nous attend pour une éternité de joie et d'amour. Amen.